Mais en fait, c'est plein d'enseignements sur des choses qui, en réalité, nous concernent tous quasi quotidiennement. Parce que ça touche à la question de savoir qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que je fais. En exemple, on pourrait se dire, mais est-ce que j'ai le droit de regarder cette dernière série qui est sortie sur Netflix? Est-ce que j'ai le droit d'aller voir ce film au cinéma, d'écouter ce groupe de musique? Est-ce que j'ai le droit d'aller boire une bière avec des collègues, boire deux bières avec des collègues? Est-ce que j'ai le droit de fumer? Quoi? C'est plein de questions comme ça, pour lesquelles on n'a pas de réponse directement dans la Bible. Et pour les Corinthiens, le problème, c'était la viande sacrifiée aux idoles. Corinthe, c'était une ville où il y avait énormément, énormément de temples. Et on sacrifiait à longueur de journée des animaux pour certainement s'attirer la faveur de ces dieux. Et après, cette viande, elle était vendue. Dans l'église de Corinthe, il y en avait qui, pour qui c'était tout à fait normal d'acheter, de manger cette viande. Ça ne leur posait aucun problème. Et pour d'autres, dans l'église, ils pensaient que c'était quelque chose de vraiment de sacrilège auquel il ne fallait surtout pas toucher. Et ce qui fait qu'il y avait, ça rajoutait aux divisions qui existaient à Corinthe, et ça leur posait beaucoup de problèmes. Et en fait, on voit que pour les Corinthiens, c'est un peu comme pour nous. On aimerait savoir clairement ce qui, d'un côté, est interdit, ce qui, de l'autre côté, est permis, avoir une frontière bien claire au milieu et se dire, je suis libre de faire tout ce que je veux là dans la partie à droite, et je vais juste m'abstenir de ce qui est dans la partie à gauche. Et donc, une des questions que les Corinthiens avaient adressées à Paul était de savoir, cette viande qui a été sacrifiée à des faux dieux, de quel côté est-ce qu'on la place? Alors, je vais lire le chapitre 8, donc c'est un petit peu long, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que tous nous avons de la connaissance. La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. À propos donc de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais tous n'ont pas cette connaissance. En effet, quelques-uns, retenus encore par l'habitude à l'égard de l'idole, mangent de ces viandes en tant que sacrifiés et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins, et si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Mais prenez garde toutefois que votre droit ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périt par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en heurtant leur conscience qui est faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment fait tomber mon frère, jamais plus je ne mangerai de viande, afin de ne pas faire tomber mon frère. Je vous propose de voir comment, dans ce passage, Paul va d'abord, en un sens, démonter le raisonnement qu'avaient les Corinthiens. Il va d'abord leur montrer, mettre un énorme panneau « Attention, danger » sur la connaissance. Il va leur apprendre que dans nos choix de ce qu'on va faire, il ne faut pas simplement agir en fonction de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît, pas seulement en fonction de ce qu'on aurait le droit, mais il faut y ajouter une réflexion d'amour. Et enfin, on verra qu'au cœur de ce passage, de ce chapitre 8, il y a vraiment des vérités qui résument ça et qui nous permettent de constituer une bonne base pour simplement de savoir comment est-ce qu'on peut se comporter en tant que chrétien. Alors, au tout début du passage, Paul commence par ne pas répondre à la question des Corinthiens. C'est assez surprenant, et il a même l'air de dire que la connaissance est quelque chose de presque mauvais. Alors, en réalité, il ne va pas jusque-là. On voit que dans les chapitres précédents, En fait, il dit que la connaissance est bonne, qu'elle est utile, qu'il faut l'avoir, mais là, ce qu'il est en train de dire, c'est attention, la connaissance peut être mal utilisée. Il est en train de coller une étiquette. La connaissance, c'est peut-être quelque chose de bien, mais c'est une matière dangereuse, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Et il va amener trois arguments pour dire quels sont les dangers de la connaissance mal utilisée. Premièrement, la connaissance, eh bien, elle peut être humaine et on peut se tromper. Au tout début de sa lettre, Paul nous explique qu'il y a une connaissance humaine qu'on a de manière innée et qui nous permet de connaître des choses humaines, mais elle est tout à fait faillible. Et les choses spirituelles, elles, nous sont révélées par Dieu. Et donc, il faut un petit peu se méfier des évidences. Si on remontait des centaines d'années en arrière, ça paraissait une évidence que la Terre était fixe et qu'on ne bougeait pas, parce qu'on n'en a pas l'impression. Et en fait, aujourd'hui, on sait qu'on se déplace à des milliers de kilomètres heure dans l'espace. Et donc, il faut bien faire attention, et c'était certainement l'argument de certains des Corinthiens qui pensaient qu'ils avaient le droit de manger la viande sacrifiée aux idoles, c'était que pour eux, c'était une évidence. De même pour ceux qui n'en mangeaient pas, c'était peut-être aussi une évidence. Et donc, il faut toujours bien veiller à ne pas rester sur des choses très humaines, mais chercher les vérités que Dieu nous révèle. Et pour ça, on sait qu'on a la parole de Dieu, la Bible. Mais même pour ça, ce passage de Corinthiens nous rappelle que c'est l'Esprit qui nous permet de bien comprendre ces vérités et qu'il ne suffit pas de lire la Bible. Il faut aussi demander l'aide de l'Esprit pour qu'il nous révèle les vérités. Ensuite, la connaissance peut rendre orgueilleux. Ça, il le dit au milieu du premier verset. La connaissance enorgueillit, littéralement, c'est faire enfler. Alors, ça fait un petit peu penser à cette idée d'avoir les chevilles qui enflent. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui nous touche particulièrement dans des églises où on a raison d'encourager, de s'encourager à étudier la parole, à écouter des messages, à lire des livres. Mais la dérive, c'est que on a facilement tendance à mépriser un petit peu ou se sentir supérieur à d'autres qui auraient moins bien compris ou compris différemment. On a facilement tendance à se croire peut-être les meilleures églises, les meilleurs mouvements d'église et à un peu condamner ceux qui interprètent différemment, ont des points doctrinaux différents, alors qu'en fait ça peut être tout à fait secondaire. Là aussi, on a vu que c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les vérités, elles ne viennent pas de nous. Donc on ne doit pas et on ne devrait pas pouvoir s'enorgueillir de la connaissance que nous avons. Donc faisons attention à nos chevilles. Et enfin, la connaissance peut présenter un réel danger. J'ai listé ce qui est associé à la connaissance dans les versets 9 à 12 à 13. Et on voit que la connaissance peut être un obstacle, une pierre d'achoppement. Elle peut faire pécher les autres. Elle peut blesser, faire trébucher, être un piège. Et il y a ce mot, elle peut faire périr un frère. Alors c'est très choquant. Je ne pense pas que Paul insinue qu'on puisse perdre son salut. On sait qu'ailleurs, il nous explique que rien, quand on est fils de Dieu, rien ne peut nous séparer de son amour. Donc, pas même des frères. Mais là, Paul utilise des mots qui sont forts pour nous rappeler l'immense responsabilité que nous avons les uns envers les autres. On l'a beaucoup dit ce matin, et c'est une bonne chose. Nous sommes une famille. Et il faut surtout pas se dire que parce que quelqu'un est assis à nos côtés le dimanche matin, il est déjà sauvé, bah du coup, je n'ai pas du tout à me soucier de lui. Au contraire, Jésus nous a laissé des commandements clairs que nous avons une responsabilité énorme, en positif et en négatif, les uns envers les autres. Nous pouvons être des encouragements, des sources de progrès les uns pour les autres, ou au contraire, être des freins et se faire pécher les uns avec les autres. Donc là, Paul condamne clairement une attitude qui serait individualiste, nombriliste, et nous rappelle que nous sommes censés se préoccuper les uns des autres. Donc, la connaissance présente beaucoup de dangers. Malgré le fait qu'elle soit, dans l'absolu, tout à fait bonne, on voit que beaucoup de choses sont permises avec les progrès de la science, que ce soit en médecine ou en beaucoup de choses. la connaissance, l'étude de la parole nous permet de mieux connaître Dieu, mais faisons attention de la manière dont nous l'utilisons. Un petit exemple pour cela sera de se dire que si je suis un très bon skieur, si je suis tout seul, je peux très bien aller skier sur, et j'ai le droit d'aller skier sur une piste noire, d'aller à fond. Par contre, si j'accompagne des gens qui sont en train de skier pour la première fois, c'est peut-être pas une bonne idée de les amener sur la piste noire et de skier à fond. Ils risqueraient de se blesser. Donc, dans la manière dont nous comportons, Paul commence à nous inviter à faire attention aux autres et pas juste à nos propres droits et à ce que nous connaissons. Et en fait, on pourrait dire que la connaissance, c'est un petit peu comme le dihydrogène. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est un aimant qui est très abondant dans l'univers, mais il ne faut pas l'utiliser pour faire n'importe quoi. Il y a une époque où on l'a utilisé pour faire voler des zeppelines. Le problème, c'est que c'est très inflammable. Donc on a rapidement arrêté après une grande catastrophe. Par contre, le dihydrogène, si on l'associe à une autre molécule, une molécule d'oxygène, ça fait de l'H2O, et ça c'est de l'eau. Et on voit qu'une matière qui est inflammable, qui peut être dangereuse, bien associée, elle peut être quelque chose qui est vital, qu'on emploie au quotidien et qui est tout à fait bonne. Au verset 3, Paul nous dit « Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Alors c'est un petit peu difficile de savoir pourquoi est-ce qu'il dit ça dans ce contexte. Et en fait, là, Paul est en train de nous rappeler quelque chose de fondamental. Nous ne sommes pas sauvés par nos connaissances bibliques ou théologiques. Bonne nouvelle, il n'y aura pas d'examen à l'entrée du paradis. On ne demandera pas de réciter Jean 3,16 ou de citer les livres, l'ordre des livres du Nouveau Testament. Nous sommes sauvés si Jésus nous connaît. On l'a un petit peu mentionné ce matin, le salut, c'est pas quelque chose qui viendrait de nous, d'une connaissance que nous aurions ou nous pourrions développer. C'est quelque chose que Jésus nous donne. On peut avoir énormément de connaissances et ne pas être sauvé. C'est ce verset qui fait beaucoup réfléchir. Dans Matthieu, on voit que des personnes qui font des choses, qui pensaient certainement connaître des choses, en réalité, elles n'étaient pas connu de Jésus. Et dans Jean 14, 21, on voit que la bonne question à se poser pour savoir si on est sauvé, c'est pas combien je connais de choses sur la Bible, mais est-ce que j'aime Dieu ? Est-ce que j'aime Dieu d'un amour qui me pousse à vouloir de tout mon cœur suivre ses commandements, lui obéir ? Et dans ce cas-là, on voit que c'est Jésus, que c'est Dieu qui nous aime et qui se révèle à nous. Donc ce n'est pas notre propre connaissance qui nous amène le salut, mais c'est Jésus qui nous révèle ce que nous devons savoir. Et il y a un frère dans cette église qui aime bien rappeler qu'il y a des pays où ils n'ont quasiment pas accès à la Bible. Ils n'en connaissent que des petits bouts, et ça ne les empêche pas d'être des chrétiens fervents, parce que Jésus se révèle à eux par d'autres manières. Ils n'ont peut-être pas énormément de connaissances ni d'instructions, mais c'est Jésus qui leur révèle toute connaissance suffisante pour qu'ils puissent progresser dans leur vie et être sauvés. A contrario, il y a beaucoup de gens qui sont spécialistes de la Bible, qui connaissent très bien l'Ancien et le Nouveau Testament, qui savent analyser le grec et l'hébreu, et qui pourtant ne sont pas sauvés parce qu'ils ne croient pas, ils n'ont pas compris le sacrifice de Jésus. Et c'est pas nouveau. On peut remonter à l'époque de Jésus, où les spécialistes de la loi, qui connaissaient sans doute une bonne partie de la Torah par cœur, pour la plupart, ils n'ont pas reconnu Dieu fait homme qui venait pour les sauver. Donc, encore une fois, la connaissance est une bonne chose, mais ce n'est pas la chose essentielle. Elle est importante, mais pas essentielle, et surtout pas suffisante. Ensuite, on voit que l'amour édifie. L'amour fait grandir. Alors quand on parle d'édification, c'est un peu surprenant que ce soit associé à l'amour, parce que nous on pense plutôt à quelque chose d'intellectuel, on pense quand on parle d'édification, on se dit tiens on va ouvrir la Bible pour apprendre quelque chose. Mais là, ce n'est pas d'édification personnelle dont il est question, à la fin du verset 1. Mais c'est bien de construire quelque chose ensemble. Et Jésus ne nous a pas sauvés pour qu'on soit des chrétiens individuels, chacun dans notre coin. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons une famille, que nous soyons son corps, que nous soyons un édifice. Et j'ai mis en image ce qui est aujourd'hui la plus haute tour du monde. C'est en 2008 qu'elle a fini d'être construite. Et je vous laisse imaginer, pour construire une tour de plus de 800 mètres de haut, si chacun des architectes et des ouvriers n'en faisait qu'à sa tête et ne s'écoutait pas les uns des autres. Ce serait tout simplement impossible. Nous sommes appelés à bâtir ensemble un édifice qui est grandiose, qui est immense, et cela ne peut être possible que si nous nous aimons, nous nous écoutons et nous faisons attention les uns aux autres. Et ça peut vouloir dire parfois accepter de travailler avec des gens avec lesquels on ne va pas être d'accord avec tout. Ça peut vouloir dire que, on va mettre de côté certaines de nos opinions. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des compromis sur tout ce qu'on croit. Ça ne veut pas dire qu'on va pas essayer de discuter ou de convaincre les autres. Mais ça veut dire qu'on ne sera jamais d'accord tous sur tout, mais que Dieu nous appelle quand même, et malgré cela, à l'unité pour son Église qui est la priorité. Il y a toujours des différences d'opinion. À nous de bien juger ce qui est essentiel de ce qui est secondaire et de chercher avant tout la croissance du corps de Christ. Et enfin, on voit à la fin du passage que l'amour, contrairement à la connaissance seule, se sacrifie. Paul, à la fin du passage, a l'air de dire quelque chose d'assez extrême. Il ne dit pas « si jamais consommer de la viande sacrifiée aux idoles peut faire chuter un frère, alors je ne mangerai pas de viande sacrifiée aux idoles devant lui ». Il a l'air de dire « si je sais que ça risque de faire chuter un frère, je deviens végétarien, tout le temps ». Et là, on voit que l'amour, c'est faire passer les autres avant soi. Et ça peut amener à beaucoup de sacrifices. Et ça évite complètement les dérives que pouvait apporter la connaissance seule, les dangers qu'on avait vus tout au début. Parce que l'amour va amener cette réflexion qu'il y en a d'autres autour de moi, que les actions que je fais, elles peuvent être vues. Les paroles que je prononce, elles peuvent être entendues. Elles ont de l'impact sur les autres. Et donc ce que je fais n'est pas seulement dicté par ce que j'ai le droit de faire ou ce que je sais faire ou ce que je sais, mais aussi parce que les autres pensent, parce que les autres font ou ils en sont dans leur foi. Et donc, ce que Paul a dénoncé jusqu'ici, c'est pas tellement le fait que certains des Corinthiens pensaient que c'était acceptable de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Ce qu'il dénonce, c'est le raisonnement qui est « puisque j'ai le droit de faire quelque chose, alors je vais le faire sans me soucier des autres ». Et il leur dit que ça, c'est quelque chose qui est profondément égoïste et individualiste. Et c'est pour ça que je pense que ça s'applique particulièrement à nous, parce qu'on vit dans une société qui a tendance à être égoïste et individualiste. Et on sait que ça nous affecte particulièrement. Le verset 6 constitue un petit peu le centre du passage. Et là, c'est le moment, en fait, où Paul va commencer réellement à répondre à la question des Corinthiens sur est-ce que, dans l'absolu, on a le droit de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Il dit donc qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Toutes choses viennent de Dieu. On peut remonter dans la Genèse et on voit que Dieu a fait toutes choses bonnes. Et là, je pense que c'est bien de ne pas retomber parfois dans un légalisme ou une vision un petit peu binaire du monde. Rappelons-nous qu'à la base, toutes choses bonnes viennent de Dieu et ont été créées et voulues par Dieu. Et une citation de C.S. Lewis que j'aime beaucoup, où il nous rappelle que le diable n'a pas le pouvoir de créer quelque chose qui soit bon, plaisant, et qui soit un péché. Tout ce que le diable est capable de faire, c'est prendre une chose bonne que Dieu a créée, et de la détourner, de la corrompre, de nous tenter de l'utiliser d'une manière, à un moment ou à un degré qui n'était pas voulu par Dieu. Le pouvoir du diable est limité. Les choses à la base sont bonnes. Ce sont souvent les excès ou l'emploi de ces choses d'une manière égoïste qui sont mauvaises. La connaissance à la base est bonne. Dieu a voulu que nous puissions apprendre de lui. Mais l'abus de cette connaissance ou l'utilisation égoïste de cette connaissance est quelque chose de mauvais. Et donc, ce que va développer Paul, c'est que de la viande, c'est de la viande, et que c'est pas parce qu'elle aurait été sacrifiée à un faux dieu que ce serait mal d'en manger. Par contre, si tu penses que c'est mal d'en manger, si pour toi c'est un péché, alors effectivement, tu pèches. Mais dans l'absolu, puisque toutes choses viennent de Dieu, il n'y a rien de mal en soi à manger de la viande qui aurait été sacrifiée aux idoles. Mais le verset ne s'arrête pas là. Paul ne veut pas laisser entendre que c'est parce que il n'y aurait rien de mal à faire cela que nous allons le faire. Et certes, toutes choses viennent de Dieu, mais nous, chrétiens, nous sommes pour Dieu. Nous vivons pour Dieu. Et puisque nous vivons pour Dieu, nous ne vivons plus pour nous. Encore une fois, Dieu ne nous a pas sauvés. Il n'a pas envoyé Jésus mourir pour nous, pour que nous continuions à vivre pour nous, mais au contraire, pour que nous vivions pour lui. Nous avons été rachetés à grand prix. Cela veut dire que nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Et donc nos actions, encore une fois, ne doivent pas être motivées par ce que nous savons, pouvons faire à un instant donné, mais par ce qui rend gloire à Dieu. C'était ce qu'avait rappelé Pascal Herman, qui avait prêché il y a quelques mois. C'est que, certes, on ne va pas faire des choses qui nous font pécher, mais la bonne question, après ça, c'est de se demander, est-ce que ça rend gloire à Dieu ou pas? Et donc ça change complètement l'orientation de nos actions. Jésus nous a certes libérés de toutes les ordonnances de la loi de l'Ancien Testament. Il y a plein de choses que nous sommes libres de faire et nous pouvons librement en profiter. Jésus nous a sauvés et Dieu prend plaisir à ce que nous soyons dans la joie et que nous vivions une belle et bonne vie. Mais nous devons nous poser bonnes questions et vivre pour lui et non plus pour nous. Paul va développer un petit peu ce thème dans les chapitres suivants, et ça va être résumé dans cette phrase où il dit « Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. » Est-ce que ce que je suis en train de dire, est-ce que ce que je suis en train de faire, ce que je m'apprête à faire, est-ce que ça rend gloire à Dieu ? Quand on arrive ici, on peut se dire que ça paraît très lourd, voire impossible à faire. On est par nature des personnes qui sommes égoïstes, on pense plus à nous qu'aux autres naturellement. Et par rapport aux standards que nous met Paul, ça paraît énorme. Heureusement, encore une fois, le verset 6 ne se termine pas là. Et Paul nous rappelle que nous sommes par Jésus. Nous vivons par Jésus. Et là, Paul nous rappelle le sacrifice de Jésus, ce qu'il a fait pour nous. Et il y a ce verset de Philippiens qui nous dit de garder, qu'on ait à l'esprit la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, d'esclave, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus était Dieu par excellence, c'était celui qui avait tous les droits, toutes les libertés. Et c'est lui qui a justement choisi de renoncer à tout ça. Est-ce qu'on a bien conscience ce matin que Jésus ne nous devait rien, qu'il avait tout à fait la possibilité de ne jamais venir sur terre en tant qu'homme pour nous sauver, que Jésus aurait tout à fait pu refuser de mourir pour nous, mais qu'il l'a fait. Il aurait pu refuser, on n'aurait rien eu jamais à lui reprocher, et pourtant il l'a fait. Il a réellement renoncé à tous ses droits divins pour nous. Et en cela, il constitue le meilleur exemple que nous ayons d'amour les uns pour les autres. Et quand il nous a appelés à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, c'est à ça qu'il pense. C'est que nous devons réellement être prêts à tout sacrifier pour lui, à tout sacrifier les uns pour les autres. Donc, des bonnes questions, ça peut aussi être, qu'est-ce que je peux avoir à sacrifier avec joie pour un de mes frères, une de mes sœurs, pour les faire grandir. Aussi, le sacrifice de Jésus est une bonne nouvelle pour nous, parce qu'il nous sauve, il nous fait vivre, et nous permet de vivre et de continuer à vivre avec Dieu, même si nous échouons parfois, souvent, à suivre son exemple. Jésus est là pour nous pardonner tout ce que nous avons fait, et pour nous pardonner quand nous continuons à agir de manière égoïste, encore et toujours. Et enfin, Jésus nous a promis d'être là, tous les jours, avec nous jusqu'à la fin du monde, de nous transformer par son esprit, et donc nous ne sommes pas tout seuls à avoir à faire des efforts pour essayer de ne plus agir pour nous et d'agir pour les autres. Il est réellement là pour nous aider, pour nous transformer petit à petit. C'est quelque chose sur lequel nous devons faire des efforts, mais c'est lui qui fait que nous sommes en capacité de le faire, nous sommes en capacité petit à petit d'abandonner une attitude égoïste et d'être en capacité de vivre pour Dieu et pour servir les autres. Et donc, en conclusion, la connaissance de ce qui est permis ou de ce qui n'est pas permis est une bonne chose. La connaissance biblique de qui est Dieu, de tout ce qu'il nous révèle, est une très bonne chose. Mais elle n'est pas suffisante. Et nous devons réellement demander à Dieu de nous aider à servir avec amour, de nous aider à nous aimer les uns les autres, à l'aimer lui, parce que c'est ça qui va réellement changer notre comportement et notre manière de vivre. Voilà, que ça puisse nous aider, qu'on puisse avoir cette semaine, que notre pensée soit celle de Christ qui est venu, qui s'est dépouillé lui-même et qui a tout abandonné.